RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Je suis triste. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis triste. Nous sommes un vendredi 13. Aujourd'hui même. Vous vous rendez compte? Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous conseille de rester au lit, mais quand même de m'écouter. Vous avez bien un petit transistor dans votre chambre. Ou vous allongez sur le canapé dans le salon, hein, et vous m'écoutez. Et vous ne bougez pas de la journée jusqu'à minuit. Hein, parce que le vendredi 13, il va aller jusqu'à minuit. Hein, minuit une, vous pouvez vous lever et faire la fête, pas de problème. Mais là, restez au lit surtout. Hein. Alors moi, je me suis quand même levé parce que, pour vous prévenir grâce à la radio, vous voyez, la radio est un vecteur d'information, surtout RLP. Bon, je ne parle pas des autres radios parce qu'ils racontent que des conneries. Hein. Mais nous, on ne dit jamais de conneries. La preuve, c'est qu'on vous prévient qu'il faut faire attention à vendredi 13. Alors, les histoires de chat noir, la nuit, passer sous une échelle. Non, ce n'est pas tout ça. C'est pire que ça. C'est pire. Hein. Quand vous voyez un mouton à cinq pattes passer sur les Champs-Élysées, là, ça, c'est grave, là. Là, c'est dangereux. Vous voyez? Et quand vous voyez un Premier ministre qui n'est même pas encore levé, hein, alors qu'il faut qu'il forme un gouvernement. Mais non, il veut pas le vendredi 13. Ça va être triste, ça va être malheureux, ça va être le désastre s'il parle de son prochain gouvernement un vendredi 13. Puis qui va le croire, hein? C'est comme les poissons d'avril, vous voyez, à Pâques, le 1er avril, par exemple. Aller former un gouvernement un 1er avril, mais c'est complètement dingue. Et ça n'arrête pas le poisson, hein? Non. Hein? Et puis, le Premier ministre, il va avoir un poisson dans le dos, là, je peux vous dire. Bon, allez, arrête tes conneries, Maurice. On est là pour faire de la poésie, on n'est pas là pour faire de la politique. Hein, ou faire les mystères de Paris. Hein. Bon, enfin, mais quand même, on est le vendredi 13. Il faut que vous le reteniez bien jusqu'à minuit une, d'accord? En attendant, je vais quand même vous lire quelque chose. Allez, Julos Bocarne. Vous savez, là, ce fameux Belge qui est, bon, malheureusement, qui est décédé. Mais c'était un Belge francophone, hein. C'était pas un Flamand. Hein? Non, non. Alors, il a écrit un poème sur la Miss Univers. Ouais. Et alors, pour une fois, la Miss Univers était belge. Certainement, sinon il n'aurait pas écrit. Hein? Ah oui. Dans un grand music hall, il y a des gens plein le hall. Le hall, pardon. Ça s'écrit le hall, mais on dit le hall. Vous voyez comment la langue française est chiante, hein? Le directeur obèse. C'est normal, le directeur, ça bouffe beaucoup. Hein? C'est comme nous, le président du Sénat, vous avez vu comment il est obèse, hein, annonce son antithèse, la bombe atomique, Miss Univers Musique. Ouah ! Sur un petit pas de danse, Miss Univers s'avance, elle n'a sur la peau qu'un tout petit maillot. Sont-ils contents, les gens ? Se demande le Diro. Enfin, on dit le Dirlo, normalement. Mais les voilà qui crient. À poil, la belle fille, dévoile-nous toute ton anatomie. Allez, seul. Alors, Miss Univers, fermeture éclair, toute ouverte au vent, dans sa chair de safran, livra au peuple fou ses seins et ses genoux. Mais les voilà qui crient « Dépiote-toi, la fille ! Qu'as-tu de beau sous la peau, écarte le rideau ?» Alors, Miss Univers, la fille de la bouchère, oui, parce que c'était la fille de la bouchère, hein, se mit à découper au couteau sa belle peau. Cette fois, ils seront contents, se disait le Dirlo. Mais les voilà qui crient « Ton cœur, la belle fille, montre-nous-le tout chaud, sors-le de son cajot !» Alors, c'est pas un cajot, si elle était Miss Univers. Parce que vous savez que, moi je me souviens, quand on était gamin, on disait « Oh, t'as vu la nana, là, c'est un vrai cajot. » C'est-à-dire qu'elle était pas belle, elle était mal formée. Hein, là, c'est pas le cas, puisqu'elle était Miss Univers. Lors, nageant dans le sang, la fille offrit aux gens son petit cœur de femme, et l'on dit qu'il a l'âme. Le directeur leur dit « Est-ce que cela vous suffit ?» Mais les voilà qui crient « On veut la voir mourir, on veut la voir s'éteindre avant de l'applaudir !» Alors, Miss Univers s'effondra à terre, la plus belle femme du monde ne donne ce qu'elle a, que ce qu'elle a, pardon. Et au directeur obèse, la foule alors cria un autre gros pacha, vite, une autre nana. Et si tu n'en as pas, on se tire, on reviendra pas. Vous vous rendez compte? Ça se passe comme ça en Belgique. Oh, j'y retourne plus. Je sais, pourtant j'y étais, hein, souvent. J'avais des amis à Liège, pas loin de moi, ça s'appelait Warem. Ouais, Warem, c'est joli comme nom. Hein. Et c'était du côté des... pas des Flamands, de l'autre côté, là, des Wallons, ouais. Donc ils parlaient le français comme nous, mais ils avaient un patois, eux, mais qu'on ne comprenait pas non plus, hein, comme, c'est un peu comme les Flamands, quoi. Sauf que les Flamands, ils ne parlaient pas le français, eux. Donc c'était encore pire. Voilà, alors Miss Univers, voilà. Et c'est pour ça, depuis ce temps-là, que le concours de Miss Univers n'existe plus. Parce qu'à cause des spectateurs qui réclament, ils réclament beaucoup trop de choses à une Miss Univers, vous vous rendez compte? Incroyable. Oh non, c'est dégueulasse, moi, je trouve. Ça se fait pas, des trucs comme ça. Hein. En plus, moi, j'ai déclaré que c'était Journée de la Femme, et sans le faire exprès, je vous lis un poème aussi atroce. Hein. Quand même, faut pas déconner, non? Bon, je recommencerai plus, je vous le promets. Et pour vous prouver que c'est ma Journée de la Femme, nous allons écouter Myriam Makeba. Myriam Makeba. C'est une de ses plus belles chansons, ça, d'ailleurs. Alors, on va aller faire un petit tour au Burkina Faso. Ce fut écrit le 31 mars 2004 à 23h50. Ça s'appelle « Les coupeurs d'extase ». Je n'osais y croire 30 ans après. Les coupeurs d'extase officiaient encore. La petite fille restait l'objet d'une tradition barbare. Nathalie avait 4 ans. L'âge où le plaisir de jouer devenait une atroce réalité, celle d'être excisé, en séchant ses larmes de souffrance avec sa robe, avec la robe de sa poupée, Nathalie perdait à jamais le droit de jouir, le droit de l'homme de détruire le droit au plaisir de la femme. La fûteuse du couteau et l'homme intègre réenfilaient la vilaine coutume d'intégriste, alors que Dieu n'avait jamais prononcé le mot excisé. mes sens se chaviraient et tombaient du côté opposé, celui du justicier qui casse les coutumes à coups de gueule et de larmes. Nathalie avait 23 ans maintenant, et son corps, fait pour le plaisir, ne le connaîtra jamais. Les inventeurs de rêves devront disparaître. Sinon, l'homme n'aura plus le droit pour lui. Voilà. Et c'est du vécu parce que cette jeune femme, Nathalie, je l'ai connue seulement quand elle avait 23 ans, elle m'avait dit, expliqué qu'elle avait été excisée à l'âge de 4 ans. Voilà. Il y a beaucoup de femmes encore, des femmes... Bon, alors, maintenant, ça s'opère. Mais il y a encore quelques années, ça se faisait même à Paris, chez les Maliens. C'est-à-dire que les Maliennes excisaient leurs filles à la naissance, au bout de quelques mois, vous voyez. Et bon, après, bon, le gouvernement a mis les houlas, parce qu'elles ont été dénoncées, elles ont été condamnées et tout, hein, parce que c'est un crime, quelque part, c'est un crime. Voilà. Voilà d'où vient... cette histoire un peu triste, ma foi. Enfin, qu'est-ce que vous laissez comme ça, la vie hein. Alors, il y a un certain François Eva. François Eva, il a fait un livre qui s'appelle « Histoire racontée au vieux château ». Et alors, ce mec, il se cache sous un pseudo, et en fait, il s'appelle Jean-Pierre Ménard, dont je vous ai déjà lu certains de ses poèmes. Hein. Et je vais vous en lire un autre. Hein. Alors, ça s'appelle « Le poilu qui voulait repartir au combat ». Waouh, il est fou ce mec. Hein, il n'avait pas compris déjà la première fois. Hein. C'était un petit homme, au visage buriné par le soleil, et comme labouré par le frimas de l'hiver en sillon, bordé de verrues qui dansaient au cœur du typhon, des rires joyeux dont il n'était nullement avare. Vétéran de la Première Guerre mondiale, il arborait fièrement sa jambe droite, où paraissaient deux éclats d'obus. Bien qu'avant quelques difficultés pour se déplacer, il participait à tous les travaux des champs et pour rien au monde n'aurait manqué battage, vendange ou moisson et même travaux forestiers. L'homme était un bon vivant et ne laissait pas lever le coude à l'occasion. Hein. Ses bras possédaient une force herculéenne et ne laissaient le soin à personne de soulever des lourds sacs de blé qu'il manipulait comme des plumes. Il adorait la chasse et l'ouverture. Il voyait partir son fusil à broche. L'ouverture le voyait partir, pardon. En bandoulière et la gypsière remplie de cartouches fait maison. Les meilleurs, disait-il, de la Grande Guerre, il avait gardé un patriotisme farouche. Et la haine de l'Allemand, quand la Seconde Guerre éclata, il prit son fusil, son vieux fusil, ses cartouches miracles, et partit à pied à la gendarmerie ou devant le fonctionnaire éberlué. Il demanda la permission d'aller au feu. Inutile d'envoyer des gamins, puisque eux, les anciens, étaient là pour botter le cul aux boches. Hein. Vu son âge, on le refusa. Il fallut le porter dehors. Il partit tout triste. Mais, le moment venu, il entra dans la résistance. La guerre finie, l'âge avançant, il resta de plus en plus longtemps chez lui, posté devant la porte, attendant le passage d'un quidam. À qui il pourrait, tout en chiquant, raconter ses aventures. Et puis un jour, il disparut. Mais un trois quarts de siècle après, ses anciens se souviennent encore de lui. Voilà, c'est beau, hein. C'est beau, mais enfin, bon, ça fait un peu revanchard. Hein. Bon, enfin, bon, ils nous ont bien fait chier deux fois, les Allemands. Hein. Bon. Pas les Allemands d'aujourd'hui, hein. Je parle des Allemands d'avant-hier, et même d'avant-avant-hier. Hein. Même pas les Allemands d'hier. Non. Bon. Ben c'est beau, hein? Bon, c'est beau et c'est triste. Bon. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Alors, oh, la fameuse Tandy Trash, vous allez voir, elle va vous faire vibrer. Hein. Yeah. Voilà. Eh ben, c'est un peu court, hein. Elle fait un peu feignante sur les bords, hein. Oh, et Sandy, là, tu pourrais faire des morceaux un peu plus longs, hein. Oh, pas 6 minutes, mais au moins dépasse les 3 minutes quand même. Tu sais bien que je passe des chansons ou de la musique de moins de 4 minutes. Donc, tu pourrais aller un petit peu plus loin, hein. La prochaine fois, écoute-moi quand même, hein. Bon. Allez. Fleur de femme, tome 3. Hein. Alors, vous savez, quand je dis fleur de femme, c'est pas la peine que je dise mon nom, hein. Allons. Vous connaissez. Alors, nous avions une très bonne amie qui s'appelait Dany Chaponnet. Et j'ai fait un poème sur elle parce qu'elle est morte dans des conditions atroces, que je vous dirai à la fin. Le désert de Dany. Je ne sais toujours pas pourquoi je souffre autant. Une amitié qui vivait sa vie avec des visages souriants. Était-ce un amour latent? Un amour qui ne venait pas le dire? Je ne comprends toujours pas cette souffrance. Elle ressemble par son intensité à un amour perdu. Et pourtant, c'était une simple et merveilleuse amitié. C'est aujourd'hui, Dany, que tu rejoins Pierre avec cette tombe du cimetière de Luzet. Une autre urne avec une partie de tes cendres ira vers ce désert de Mauritanie où tu as vécu tes passions et pris du recul envers la société. Tes enfants étaient tous présents avec des sentiments différents en analysant leur comportement. Pendant cette triste cérémonie, je ne savais plus qui j'étais parmi ta famille. Un ami, un amant ayant ignoré cette éventualité. J'apprends par ta expérience que c'était cette merveilleuse amitié, une aventure rare et intense. Un homme, une femme, depuis 40 ans. Comme une vie, mais pas ensemble. Des rencontres, des absences, parfois longues, par nos voyages et nos soifs de découverte. L'homme qui marchait sur le désert, le guide de tes découvertes et de tes souffrances sur le sable, émouvant, a prié pour toi en faisant quelques larmes sur le sable doré, vite disparu par cette chaleur. Il gardera ton image et ton odeur dans sa mémoire. Un jour, il a déposé tes cendres à l'endroit où tu préférais, près de Wadan. Peut-être au pied des ruines, là où tu écrivais la poésie du désert, en regardant ces vieilles pierres que tu disais encore vivantes. Certaines rumeurs se déplacent déjà grâce à ce vent de sable pour annoncer ta prochaine arrivée, pour y mêler tes cendres dans cette immensité. En écrivant ma souffrance, j'écoutais à la radio la vie de Georges Sand et je savais que tu en connaissais l'histoire et ses aventures sentimentales et littéraires. Dany, je ne saurais jamais pourquoi tu es parti. J'admirais ta facilité à comprendre les cultures du monde et aussi à aimer ses multiples différences. Tu acceptais un Coran arriviste avec cet amour que je respectais. J'admirais tes sentiments pour ce prince du désert qui le parcourait comme sur un tapis volant ton cœur, mais qui parfois exigeait trop de toi. Tu vivais ce que je n'avais pas fait dans ma jeunesse. Et là encore, j'approuvais ce rivage, que tu avais provoqué. Aujourd'hui, je tourne mon regard vers l'Adrar et je vois ta silhouette parcourir l'Oued, asséchée de Shingeti. Et comme une tempête, tu venais de disparaître alors que les rêves ne meurent jamais. C'était le soir de l'enterrement de Don Dany, le mercredi 28 avril 2010. Voilà. Alors, l'histoire, en fait, c'est que j'ai été avec elle en Mauritanie faire une mission humanitaire. On allait livrer du matériel scolaire dans les écoles nomades. C'est-à-dire, les familles qui nomadaient pour trouver des endroits pour faire manger le bétail, transportaient avec eux les enfants. Et il y avait un prof qui faisait l'école, sous une toile de tente, bien sûr, à tous les âges qui correspondent à 6 ans, par exemple, à 15 ans. Hein, voilà. Et donc, on leur a amené du matériel scolaire, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose. Alors, on a évité d'amener du papier, parce que c'est lourd, et comme on paye le poids dans l'avion, mais on a emmené, par exemple, des gommes, des stylos, des équerres, des compas, des rapporteurs, vous voyez, tout ce qu'ils n'ont pas, et qu'ils ne connaissaient pas, d'ailleurs. Et les professeurs, quand ils ont eu ça, ils étaient vachement contents, parce que ça leur donnait la possibilité de leur apprendre autre chose, par exemple, de la géométrie, un tas de choses comme ça, du dessin. Et il m'est arrivé un truc, c'est qu'arrivé au troisième campement, puisqu'on avait fait 3 campements d'école nomade, il ne me restait plus qu'un taille-crayon. Alors que j'en avais donné plein aux 2 autres écoles. Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce que je vais faire? Un seul crayon pour une dizaine de gamins? Alors, j'avais repéré un petit gars qui avait l'air un peu malicieux, un petit jeune, peut-être une dizaine d'années, et je lui ai confié ce taille-crayon en lui disant « C'est toi qui es le gardien du taille-crayon, tu l'amènes tous les matins pour que les autres, tes copains, puissent tailler les crayons, et tu le ramènes le soir. » Voilà. Et il était vachement content, il était fier. Oh, il s'est levé d'un seul coup, il m'a remercié, et puis il avait la tête droite, comme ça, l'air de dire « C'est moi maintenant, c'est moi le caïd. » Voilà, voilà l'histoire. Hein. Bon, malheureusement, Dany est morte dans un accident bête. Elle a brûlé un stop, et paf, elle s'est fait... Alors, si elle a brûlé un stop, elle ne l'a pas fait exprès. Hein. Peut-être elle avait la tête en l'air, j'en sais rien, parce qu'elle n'a jamais eu d'accident de sa vie. Hein. Donc, voilà comment elle est morte. C'est dommage, c'est triste. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Eh oui. Vous voyez, je suis pas triste, mais je suis respectueux de cette femme, qui était une très grande amie de ma femme, d'ailleurs, et puis de moi également. Hein, c'était... Et quand je parle qu'il y avait certainement derrière un amour latent entre elle et moi, c'est parce qu'elle est morte. Si aujourd'hui elle était encore vivante, j'aurais pas écrit comme ça, d'ailleurs. J'aurais même pas écrit ce genre de poème, vous voyez. Comme quoi la vie est bizarre. Hein. Alors, je voudrais vous parler de mon 15e livre, figurez-vous. Eh oui. Bon, je suis pas comme une poule pondeuse, quand même. Hein. D'abord, je suis un coq. Et un coq, ça pond pas. Hein. Mais je suis un vieux coq, en plus. Hein. Vous voyez ma crête. Hein. Elle est complètement déplumée, ma crête. Alors, voilà. Alors, vous ne pourrez pas le voir. On n'est pas à la télé, là. Hein. Celui s'appelle « L'aventure d'un pied dans le plat, ventre à terre ». Ce n'est que de la poésie sur la gastronomie. Il y a 52 pages, donc vous voyez. Par contre, il y a deux histoires qui font à peu près une quinzaine de pages dedans, et tous les autres sont des poèmes qui font une page, dont certains sont illustrés, vous voyez. Alors bon, je vais vous dire, alors la vie éphémère d'une frite, soi-disant belge, hein, par exemple. La rouelle de truie sur un lit d'échalotes et d'ail, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une recette impossible à faire. La vie éphémère d'un casse-croûte. Vous voyez, la vie éphémère... Un pétrochor de Mullard, oui, par exemple. Hein, qu'est-ce qu'il y a encore? La recette de date, oui. Et là, ça, c'est vachement bon. Alors, un petit exemple, par exemple. Voilà, je vous lis un petit passage. Hein. Faites revenir la date à son point de départ. Le jour de votre anniversaire, s'il est encore récente. Sinon, utilisez celle de votre belle-mère. Mais en la laissant cuire plus longtemps, afin de la rendre plus tendre à votre égard. Vous voyez, hein? Donc, vous voyez comment il faut faire pour faire une recette de date, par exemple. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez y ajouter le mois d'août, en y mettant le 31, pour obtenir une sauce allégée. N'oubliez pas de lier le tout à une fête religieuse afin d'obtenir la bénédiction de vos invités, vous voyez. Bon. Mais et attention, juste avant de servir, arrosez le plat avec du vin de date pour provoquer chez vos amis l'envie de revenir à une date ultérieure, vous voyez. Voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus, parce que je vais faire une souscription. Voilà. Et si vous le voulez, eh ben on en fera faire une bonne dizaine ou une quinzaine selon le résultat de la souscription. Hein. Voilà. Et vous verrez en couverture, il y a mon ami Jeannot, Jean Boussuge, qui avait été invité chez nous, avec et ma femme l'aimait bien, parce que c'était le pique-assiette le plus sympa. Hein. Ben, on disait le pique-assiette, c'était pas un pique-assiette, parce qu'il serait jamais venu de lui-même, comme certains pique-assiettes, mais c'est parce qu'on l'aimait bien, on l'invitait souvent, parce que, bon, il bouffait n'importe quoi, il était tout seul, il savait pas faire la cuisine, donc il était toujours invité dans les belles occasions, voilà. Là-dessus, on est quoi, là? Ah, oh, ça va, on a encore 2-3 minutes. 3 minutes! Alors, 3 minutes, est-ce qu'on a une... Alors, attends, bouge-moi. Eh ouais, Westmin Levy, No Diego, ça dure 2 minutes 50. Ça ira. Allez, on y va.
No llego al final, todo se termina, tarde o temprano. Se acabó cuando tuvo que acabar, tu destino nunca tuvo de mi lado. No llego al final. Una tarde oscura, húmeda y triste, nuestra última noche ni pude llorar. No dijiste nada antes de irte. No llego al final. Pero no me olvido de algunos momentos. No fueron gran cosa, pero fueron dentro. La luna en tu boca un beso. No llego al final. se calma, llego poco a poco, como llega el agua. Sin ti ya no vivo, sin ti no soy nada, más que una triste copla de madrugada. Llegó el final, todo se termina, tarde o temprano, se acabó cuando tuvo que acabar. Tu destino nunca estuvo de mi lado, no llegó el final. Una tarde oscura, húmeda y triste, nuestra última noche ni pude llorar. No dijiste nada antes de irte, no llegó el final. Pero no me olvido de algunos momentos. No fueron gran cosa, pero fueron nuestros. La luna en tu boca, y en tu boca un beso. No llegó el final, como llega el río, a los mares en calma. Llego poco a poco, como llega el agua. Sin ti ya no vivo, sin ti no soy nada, más que una triste copla de madrugada. Sin ti ya no vivo, sin ti no soy nada, más que una triste copla de madrugada.
Chers amis, il va falloir qu'on se quitte. Et puis, vous savez, je vais aller me coucher, hein, jusqu'à minuit une. Hein, parce que là, j'ai fait un effort hein, pour venir. Hein, c'était vraiment pour vous que je suis venu. Hein, parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver quand je vais rentrer chez moi. Hein, peut-être qu'il y a un dromadaire qui va passer sur la route et puis il va me rentrer dedans. Il va me faire deux bosses, oui, hein, à ma bagnole, surtout. Hein. Bon, alors faites attention à vous. Hein. Restez tranquillement au lit. Éventuellement, mettez une petite bouteille de rosée à côté, hein, avec un verre. Ça risque rien, vendredi 13. Hein. Non, vous avez le droit, là. Bon, même du vin rouge, hein, s'il y en a qui préfèrent le vin rouge. Ou peut-être du Ricard, ça dépend. Ouais. C'est selon vos goûts. C'est vous qui décidez, c'est pas moi, là. Hein. Par contre, restez bien au lit, hein. N'allez pas faire des conneries comme ça, allez vous balader dans la rue, hein, ou monter sur une échelle, hein. Non. Bon, je vous dis pas, peut-être que je vous reverrai pas la semaine prochaine, hein. C'est pas ce qui va arriver. Hein. Ah oui, moi j'ai osé sortir. Tout ça pour vous. Hein. Vous pourriez me dire merci quand même. Hein. Hé Jaco, c'est toi aussi, c'était la seule à pouvoir me dire merci à l'antenne. Faudrait pas exagérer quand même. Hein. Bon. Ah, quand même, tu décides. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, je viens pas te voir, hein. J'ai pas envie d'avoir un problème à cause du vendredi 13. Hein. Et toi, fais gaffe aussi. Hein. Je vais pas donner à manger à tes poules. Hein. Elles boufferont demain, c'est pas grave. Hein. Voilà, allez, chers amis, soyez prudents. Hein. N'oubliez pas que je vous aime. Allez, au revoir.